Nous retrouvons nos invités Claire Hédon, présidente d'ATD Quart-Monde, et Julien Damon, qui est sociologue professeur à Sciences Po et qui publie notamment Un monde de bidonville, migration et urbanisme informel aux éditions du Seuil. Lorsqu'il est question de politique de lutte contre la pauvreté, Claire Hédon, il faudrait essayer de faire au moins un bilan. Et si Emmanuel Macron, semble-t-il, a décidé de cette concertation avec les associations d'aide aux plus démunis, c'est parce qu'il y a eu surtout un certain nombre d'annonces faites pour les plus riches d'entre les Français, la suppression de l'ISF, la baisse des APL. Quel regard a votre mouvement ATD Quart-Monde sur ces mesures ?
C'est vrai que les deux mesures qui ont eu lieu cet été sur la baisse des APL et la baisse du nombre de contrats aidés nous ont inquiétés. Pas qu'on défende les APL tout craint, c'est-à-dire sur le raisonnement du gouvernement qui est de dire « mais ce système coûte à la fois très cher et pas suffisamment efficace », c'est assez vrai. On est, nous, avec des familles en situation de grande précarité qui nous disent « j'ai toujours été trop pauvre pour accéder au logement social ». Et c'est la réalité. Quand vous êtes au RSA dans des zones tendues, vous êtes trop pauvre pour accéder au logement social. Donc il y a quelque chose à réformer. Nous, on dit par exemple, sur le logement, de façon très concrète, dans le logement social, fixons le montant du loyer en fonction des revenus de la personne. C'est ce qui commence à se faire au Québec. Il y a des études très intéressantes là-dessus. Ce n'est pas une utopie irréaliste. On voudrait qu'on travaille là-dessus. Mais le signal de commencer par baisser les APL de 5 euros, on envoie un message qui est très trouble. D'abord, on commence par baisser, on ne propose rien en face. Et puis, qu'est-ce qu'on envoie comme message ? 5 euros, ce n'est pas grand-chose. Mais par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on a si peu pour se nourrir, 5 euros, c'est énorme. Donc, ce message-là était inquiétant.
Vous avez dit tout à l'heure, c'est aux environs de 60 euros par mois reste à vivre pour se nourrir.
Donc 5 euros, c'est énorme dans ces cas-là. Et je trouve que du coup, on envoie un très mauvais message. Le deuxième point sur les contrats aidés, la même chose, je ne vais pas vous défendre les contrats aidés parce que ce sont des CDD et que nous, on sait que pour se reconstruire, il faut justement un contrat à durée indéterminée et qu'il faut du temps. Mais même signal, commencer par baisser les contrats aidés sans proposer autre chose à côté. Nous, on a une expérimentation qui a démarré depuis un an qui est territoire zéro chômeur de longue durée, 10 territoires sélectionnés, des territoires petits, 5 000 à 10 000 habitants, dans lesquels on crée des entreprises à but d'emploi pour des travaux utiles à la société qui n'ont pas suffisamment de valeur marchande. On est tous d'accord pour dire qu'on manque d'emploi, mais en fait, on manque pas de travail. Il y a plein de travaux dans l'environnement, dans l'aide à la personne, qui ne sont pas faits faute de moyens.
Ce qui veut dire que l'économie sociale et solidaire, puisqu'on en a parlé à 7h30, ce peut être effectivement un bon viatique pour
Le chômage de longue durée coûte à l'État 33 milliards d'euros par an. C'est entre 16 et 18 000 euros par personne au chômage de longue durée. C'est pas ce que touche la personne. Là-dessus, il y a un tiers de minima sociaux, un tiers d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes de cotisation d'impôts et un tiers de dépenses à plus long terme. Donc imaginons ça, mais commençons pas par baisser les contrats aidés sans proposer quelque chose en face. On envoie un message effectivement très inquiétant pour les personnes en situation de précarité.
Julien Damon, lorsqu'on compare les politiques internationales menées contre la pauvreté, qu'est-ce qui a marché ?
Alors, même qu'est-ce qui marche ? Je pense que ce qui marche, c'est de cesser, pour faire le lien avec le précédent propos, de toujours s'inquiéter des moyens des politiques de lutte contre la pauvreté. Les politiques de lutte contre la pauvreté en France ne marchent pas très bien, mais sont, c'est peut-être paradoxal, plutôt bien dotées financièrement. Donc en clair, plutôt que des objectifs de moyens, ce qu'il faut faire, à mon sens, ce sont des objectifs de résultats. À l'échelle du monde, soyons ambitieux, vous avez anciennement des objectifs du millénaire pour le développement qui ont couru de 2000 à 2015 et désormais des objectifs du développement durable qui courent de 2015 à 2030. C'est extrêmement ambitieux. L'ambition, c'est de mettre fin à la pauvreté. Et à l'échelle mondiale, je ne sais pas si en 2030 on aura totalement terminé avec la pauvreté, qui est la pauvreté à 2 dollars de pouvoir d'achat par jour, mais ce que l'on observe, c'est une baisse drastique de la pauvreté dans le monde. En clair, en 90, vous aviez encore plus du tiers de la population dans le monde qui était comptée comme pauvre. Aujourd'hui, c'est moins de 10% de la population mondiale. On entraîne les gens, on entraîne les pays, on entraîne les politiques publiques lorsque l'on a des objectifs de résultats. De même, l'Union européenne s'était fixé des objectifs assez ambitieux entre 2000 et 2010 de, je cite, faire un pas décisif vers l'élimination de la pauvreté.
Mais alors, attendez, parce que c'est bien d'avoir des objectifs de résultats, mais c'est pas uniquement la force mentale d'avoir des objectifs qui fait l'efficacité des politiques.
Une chose fondamentale qui est d'évaluer si oui ou non, on atteint ses objectifs. Claire a cité le programme, qui est un objectif de résultat, territoires zéro chômeur de longue durée. L'objectif, c'est qu'à terme, sur ces territoires, on observe qu'il y a zéro chômeur de longue durée. Donc pour progresser en matière de lutte contre la pauvreté, ce qui compte, c'est les objectifs chiffrés. Zéro SDF est un très bon objectif, on peut dire dans 5 ans ou dans 10 ans.
Ça n'est pas irréaliste ?
Ça n'est strictement pas irréaliste. D'ailleurs, c'est pas à l'échelle nationale que ça se mesure, ceci c'est à l'échelle des métropoles. Et à l'échelle des métropoles européennes, ce que l'on observe, c'est une baisse du nombre de sans-abri, là où on s'est fixé ce type d'objectif, qu'il s'agisse de villes des Pays-Bas, de Londres, même si aujourd'hui, et d'ailleurs dans une bisbille politico-juridique, on s'aperçoit que le problème repart à la hausse. Donc en un mot, plus on se fixe des objectifs de résultats ambitieux, plus on risque de les atteindre.
Et alors comment fait-on justement pour la question des SDF ? Parce que lorsque Lionel Jospin avait fait cette annonce, beaucoup avaient souri et avaient dit qu'il s'agissait d'une promesse de campagne. Oui. Lorsque l'on voit ces politiques de lutte contre le fait de dormir à la rue, qu'est-ce qui fonctionne, Julien Damon ?
Deux choses. En effet, quand Lionel Jospin, en 2002, a dit zéro SDF, tout le monde, notamment le secteur associatif, lui est tombé dessus. Je précise que le président actuel, M. Macron, a donné le même objectif en juillet dernier. Il n'a pas dit zéro SDF, il a dit « je souhaite que d'ici la fin de l'année, plus personne ne dorme dehors ». Bon, ça n'a pas été totalement repris, mais c'est ce qui devrait enclencher l'action. Comment enclencher l'action ? Je pense qu'un grand sujet, c'est celui du travail social. Plus on est dans la mouise, donc les SDF sont les personnes les plus dans les difficultés et la mouise, pardon pour l'expression, plus on a de contact avec différents travailleurs sociaux. Il faut faire, comme on a aujourd'hui un médecin référent, il faut un travailleur social référent, qui soit responsable de la sortie de la galère dans laquelle vous pouvez vous trouver. Je ne résous pas d'un coup de baguette magique le dossier d'un seul coup, je ne dis pas qu'il faut davantage ou moins de logements sociaux, je pense juste qu'il faut rationaliser nos moyens avec aujourd'hui des responsabilités de professionnels pour sortir les gens de la mouise dans laquelle ils se trouvent.
Il y a un problème d'engorgement dans les centres d'hébergement et tout simplement il faut plus de construction de logements sociaux, c'est-à-dire il y a plein de personnes qui sont dans des centres d'hébergement depuis longtemps et qui, ça devrait être un sas, le temps entre guillemets de se reconstruire, mais c'est on a un nombre de familles qui sont à l'hôtel, d'abord ça coûte très cher à l'État alors qu'il faudrait qu'ils soient dans des logements sociaux et parce que ce que demandent les personnes c'est pas un hébergement, elles ont envie d'un logement, elles sont comme vous et moi, elles ont envie d'un vrai logement et donc là, clairement, il faut construire des logements sociaux et ça va prendre un peu de temps. Et donc, ça nous renvoie aussi que cette question de la lutte contre la pauvreté, c'est pas le temps électoral, c'est pas du 5 ans. Et je trouve que ce que vous disiez tout à l'heure sur l'objectif aux États-Unis et en Grande-Bretagne d'une génération 15-20 ans, je trouve que c'est très intéressant. Je pense qu'effectivement, il faut travailler sur ce 15-20 ans, faire cet investissement social, c'est-à-dire certes dépenser plus pendant ce temps-là, mais moi, je vous promets que dans 20 ans, on fait des économies.
Alors, on continue justement sur les solutions. Vous avez évoqué tout à l'heure Claire Hédon, la question donc de l'alimentation, cette question de l'alimentation qui aujourd'hui repose en France sur un système dual avec les Restos du Cœur et en arrière-pensée l'idée selon laquelle des bons alimentaires pouvaient être plus efficaces que la situation donc actuelle. Qu'est-ce qui fonctionne à l'échelle internationale en termes donc d'aide alimentaire aux plus démunis ?
Mais non, justement, les bons alimentaires, c'est encore la honte parce que vous allez au supermarché, vous n'avez pas le même moyen de paiement et vous pouvez tomber sur une caissière qui n'est pas au courant de ces bons alimentaires et qui, justement, agite le papier.
Alors, si c'est ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que l'on peut préconiser ?
C'est l'augmentation des minima sociaux. Et puis c'est la question du travail. C'est pourquoi cette expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée est si intéressante. Les personnes en situation de précarité ont envie de travailler parce que c'est un moyen d'être inclus dans la société. Ce qui est très frappant, nous, quand on réunit, notre terme, c'est des militants carmonde, des personnes en situation de précarité, qu'elles soient en France, dans les pays du Sud, justement, au Bangladesh, à Dakar ou en Bolivie, c'est qu'il y a deux points communs. D'abord, une honte de la situation et une exclusion. Et ça, c'est un des grands... Et là-dessus, du coup, on est tous responsables de ça. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parle beaucoup de qu'est-ce qu'il faut faire au niveau politique, mais la société a aussi un rôle à jouer pour changer de regard sur ces personnes et qu'elles soient plus incluses dans la société.
La relégation, c'est la relégation territoriale. Julien Damon, vous avez travaillé sur les bidonvilles. Il y a eu, dans le journal Le Monde, la semaine dernière, une étude qui tendait à prouver qu'il y avait près de 600 bidonvilles en France. Lorsque vous faites des comparaisons internationales, lorsque vous étudiez ces bidonvilles français, quelles sont les conclusions que vous en tirez ?
Bon, d'abord, il y a trois sujets différents. Il y a le sujet des villes en développement qui sont confrontées à une bidonvillisation massive. On estime que, alors encore une fois, il y a des bagarres de chiffres, vous auriez près d'un milliard d'individus qui vivent dans les pays en développement, dans les zones urbaines les plus défavorisées. Vous avez le sujet hexagonal de la métropole où une administration comptent avec les préfectures les gens qui vivent dans les campements roms. Et ceci donne le chiffre de bidonville aujourd'hui, avec environ 20 000 personnes et plus de 500 bidonvilles. Ne sont pas comptés là-dedans quand même des gigantesques bidonvilles, comme les campements à Calais ou l'ancienne jungle. Et vous avez un troisième sujet français, qui est le sujet des DOM. Si vous avez à la louche peut-être 20 000 personnes qui sont dans des bidonvilles métropolitains, vous en avez 200 000 dans les 5 départements d'outre-mer. Ce qui a profondément changé depuis la création d'ATD Quart-Monde, qui part d'un bidonville à Noisy-le-Grand en 1957, c'est la population de ces bidonvilles, qui sont aujourd'hui, dans l'Hexagone, massivement, enfin très principalement, des ressortissants européens, mais qui ne sont pas français, et des ressortissants extra-européens. La transformation des bidonvilles en France, ou le retour des bidonvilles en France, a trait à l'ouverture des frontières de Schengen et à la crise, ce que l'on baptise la crise des migrants.
Mais c'est ce qui veut dire aussi qu'il y a des situations inédites. Alors je pense par exemple à des mineurs isolés aujourd'hui en France. Le nombre, d'ailleurs, vous allez l'évaluer mieux que moi, on parle d'un millier.
Mais en réalité, on se bagarre avec les chiffres. Il y a probablement plusieurs milliers de jeunes, qu'ils aient moins de 18 ans ou un tout petit peu plus, c'est un sujet technique que de le déterminer, qui aujourd'hui doivent être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire, doivent être protégés. Le droit français est très protecteur. On les a baptisés un temps des mineurs étrangers isolés, les MEI ou MIE. Maintenant, on a changé de terme pour que ça fasse mieux. On appelle ça des MNA, des mineurs non accompagnés. En effet, ils sont plusieurs milliers à vivre dans des conditions absolument insupportables, que ce soit totalement à la rue ou dans des campements plus ou moins mafieux et, de toutes les manières, dans des situations qui sont absolument indignes d'une société d'abondance.
Alors justement, qu'est-ce que l'on peut faire ? Alors là aussi, il y a eu des articles évoquant la difficulté de sortir ces mineurs de la rue. Quelles sont les expériences menées aujourd'hui en France, Julien Damon ?
Alors, la première chose, c'est que la France aime bien s'auto-flageller et dire qu'elle ne fait pas assez. Je pense exactement le contraire, c'est que la France fait beaucoup si on se compare aux autres pays européens. Donc, sur ce sujet des bidonvilles, des mineurs isolés, de la gestion de cette crise migratoire, soit on arrive à européaniser complètement le dossier, et en même temps à ce que ce soit non pas l'État national qui le gère, mais les métropoles, soit il y a une deuxième option, qui n'est pas forcément la mienne, qui est celle de fermer les frontières. Alors je sais que c'est assez radical, mais je crois que tout le reste est un gigantesque concert de flûte. Soit vous arrivez à pleinement européaniser cette crise des migrants, et ce sujet de la prise en charge des indigents qui sont relégués, notamment des plus jeunes, soit les pays vont, et certains le font déjà, reconstruire leurs frontières.
Votre opinion à ce sujet, Claire Hédon ?
Et fermer les frontières, ça veut dire, si on veut vraiment être efficace, c'est un flic le long de la frontière, tous les mètres.
Ah oui, parce qu'autrement, c'est pas qu'un seul.
Mais oui, non, mais c'est ça, autrement, c'est une passoire. Donc, je pense que cette question de fermer les frontières, moi, me paraît pas possible.
Par contre, mais vous savez qu'elles sont déjà fermées, les frontières, maintenant, en France, avec l'état d'urgence. Oui, bien sûr, c'est tout le sujet.
Et dans des conditions sordides, enfin, avec des,
voilà, des passeurs, etc.
Mais ça veut dire que pour les associations de lutte contre la pauvreté, il y a aujourd'hui des situations inédites du fait de la présence de ces réfugiés. De ces mineurs, ça veut dire peut-être aussi que vous devez, sinon changer votre manière de travailler, Claire Hédon, à ATD Quart-Monde, du moins intégrer des personnes pauvres qui sont dans des conditions différentes de celles...
En fait, on a toujours... D'abord, notre mouvement, le fondateur, Joseph Brzezinski, est issu, en fait, de ces réfugiés, de cette migration. Il est aussi né dans un camp de réfugiés. Donc, en fait, notre histoire, elle est née de ça. Le camp de Noisy, c'était aussi beaucoup de populations étrangères qui étaient présentes. Donc, finalement, de tout temps, il y a eu ça. Et il y a dans cette pauvreté en France, les deux. Une pauvreté de personnes qui vivent en France depuis très longtemps, une autre pauvreté de personnes qui arrivent. Et d'ailleurs, ceux qui arrivent malgré la difficulté du parcours souvent ont été moins cassés par la pauvreté que le sont des personnes qui ont toujours vécu dans cette situation de pauvreté. On n'imagine pas à quel point ça casse de vivre dans la pauvreté, à quel point ça empêche les enfants d'apprendre et à quel point du coup c'est très difficile de se structurer derrière.
Alors, si on a du mal à se structurer, on voit en revanche qu'il y a un discours qui, lui, se structure. Parce que lorsque vous dites, Julien Damon, que la France en fait beaucoup, il y a aussi des gens qui pensent qu'elle en fait trop. Je lisais, par exemple, hier dans le Figaro, un discours sur l'explosion du coût du RSA, avec, là aussi, probablement une arrière-pensée, Claire Hédon, selon laquelle il y a trop d'assistés en France, selon laquelle il y a finalement un certain nombre de personnes qui profitent du système et qui le rendent, du coup, caduque. Votre sentiment à ce sujet ?
Le vrai problème du RSA, c'est le non-recours. C'est-à-dire, il y a plus de 30%, 33% des personnes qui devraient bénéficier du RSA et qui ne le demandent pas tellement les démarches sont compliquées. Donc quand on parle du RSA, et d'ailleurs l'État fait plus de 5 milliards d'euros d'économies tous les ans, entre guillemets, grâce à ça. Donc quelle est la volonté d'ailleurs de l'État de lutter contre, parce que ça va lui coûter plus cher. On a l'impression que ce gouvernement est décidé à lutter contre le non-recours. Sur la CMU, la couverture maladie universelle, c'est la même chose. C'est 30% de non-recours. Quand je vous parlais de non-accès aux droits, on est typiquement là-dessus. Donc il faudrait là-dessus changer le regard. La question de la fraude, elle est minime. Les chiffres qu'on a, on peut discuter sur la fraude détectée. Est-ce qu'on est à 100, 200, 300 millions ? La fraude fiscale détectée, c'est 3,7 milliards. On n'est absolument pas dans le même mode de grandeur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre la fraude. Je dis arrêtons d'être obsédés là-dessus. Il y a eu un rapport du défenseur des droits qui montre à quel point, à force de lutter contre la fraude, on crée du non-recours. Parce que les personnes ont tellement peur d'être accusées de frauder qu'elles ne font pas les démarches pour le demander.
Je continue sur les brèves de comptoir relatives à la pauvreté, on peut gagner plus au RSA qu'au SMIC.
Mais ça, c'est insupportable parce que heureusement, quand on est au SMIC, toutes les aides ne s'arrêtent pas. Le RSA, ce que je vous ai donné comme chiffre, le 548 euros, c'est APL comprise, aide au logement comprise. Donc, quand on est au SMIC, on a encore les APL, il y a les allocations familiales. Dans le RSA, les allocations familiales sont intégrées. D'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on demande. On devrait les séparer et pas les inclure dedans. La même chose, le RSA devrait être individualisé et pas par couple, mais par personne. Parce qu'il y a des situations... vous le savez bien, des gens qui se séparent, qui se remettent ensemble, des situations et qui créent des indus, entre guillemets, qui n'est pas de la fraude d'ailleurs, qui est juste des changements de situation des personnes. Donc non, les écarts, en gros, si on prend les situations, un couple avec enfant, une femme seule avec enfant, l'écart est de 500 à 700 euros entre quelqu'un qui est au SMIC et quelqu'un qui est au RSA.
Donc il y a une vraie différence. Oui. Dernier mythe qui est souvent propagé, en fait, les pauvres, ces gens que vous aidez, ils veulent pas travailler, Claire Hédon.
Et nous, on constate exactement l'inverse. Et simplement, enfin, il y a 3,5 millions de chômeurs de longue durée en France. C'est très compliqué de trouver du travail. En plus, quand on est sans qualification, en plus, quand on n'a pas travaillé depuis très longtemps. Mais les personnes, et c'est ce que montre cette expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, les gens veulent travailler.
Julien Damon, votre réaction par rapport à ce que l'on vient de dire sur le RSA et sur la manière dont les pauvres se situent par rapport à la recherche d'emploi lorsqu'ils n'en ont pas.
Alors, deux remarques sur l'ensemble des prestations sociales et sur les pauvres comme experts de leur situation. Sur l'ensemble des prestations sociales, dont l'icône est aujourd'hui le RSA, il faut être franc, personne n'y comprend rien. Et donc, tous les mythes et tous les fantasmes peuvent s'alimenter dans un sens ou dans un autre.
Personne n'y comprend rien, c'est-à-dire ?
Eh bien, par exemple, pour le décompte ou l'évaluation de ce à quoi vous pouvez prétendre en matière de prestations logement, il y a 3 allocations logement différentes, il y a en gros 10 personnes en France qui comprennent ce barème. C'est incompréhensible.
C'est très compliqué.
Mais c'est particulièrement compliqué. Vous allez devant votre ordinateur ou devant votre conseiller de caisse d'allocation familiale ou devant un travailleur social dans une association ou une collectivité locale. Il a un ordinateur, on entre des données et il sort un chiffre qui est plus ou moins efficace, qui est plus ou moins avéré. Donc le grand sujet, c'est de simplifier ce maelstrom. Si on arrive à une allocation sociale unique, fusionnant des prestations qui n'ont plus rien de prestations logement, sont des prestations de lutte contre la pauvreté aujourd'hui, si on réforme intelligemment les prestations familiales, si on réforme le maquis des minima sociaux, puisqu'on ne sait même pas combien il y en a, on hésite entre 8, 9 ou 10, on arrivera à donner de la clarté pour tout le monde, pour la doctrine, mais ça on s'en fiche, pour le gestionnaire, ça c'est très important pour qu'il arrive à gérer à bon droit ce qu'il doit gérer, et pour les personnes concernées. C'est ma deuxième remarque, les personnes concernées. Sur les experts de la pauvreté, j'aime bien cette formule, les vrais experts de la pauvreté, c'est... les personnes qui sont dans ces situations. Moi, je me rappelle, il est bon de faire des anecdotes. Un temps, j'avais été rapporteur général du Grenelle de l'insertion. Il y a une dizaine d'années, on cherchait déjà à tout remettre à plat. Les gens qui composaient un petit groupe de personnes en difficulté référentes me disaient, on comprend rien à tout ça. Et moi, je leur disais, mais oui, mais personne ne comprend rien. C'est extrêmement compliqué. Ils me disaient, mais nous, on a des propositions assez simples. Et leur proposition était, on passe notre temps à être évalué par des travailleurs sociaux. Ce que nous souhaiterions, nous, c'est pouvoir évaluer nos travailleurs sociaux. Je pense que c'est une réforme majeure que la réforme du travail social et que de véritablement pouvoir suivre individuellement les personnes en fonction de leurs besoins à elles.
Et d'ailleurs, on organise des co-formations, nous, entre travailleurs sociaux et personnes en situation de précarité, avec aussi des magistrats, avec des professionnels, des soignants, aussi des enseignants. Et la co-formation, c'est quoi ? Des militants habitants Carmont, donc des personnes en situation de grande précarité, qui travaillent avec ces travailleurs sociaux, et tous les deux ensemble vont avoir les représentations chacun des uns et des autres, dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ça change le regard des travailleurs sociaux sur ces personnes en situation de précarité, mais dans l'autre sens aussi, les personnes en situation de précarité comprennent du coup aussi les contraintes et le travail ou des travailleurs sociaux ou des magistrats. Cette co-formation, on y croit beaucoup et on pense qu'il faut la développer.
Alors, l'une des dernières questions qui se pose, en tout cas parmi les réformes qui sont proposées, et le nœud du problème, parce que finalement, on en parle depuis le début, c'est le logement. On a vu avec la baisse des APL et les réactions que cela a suscité. Vous avez dit, Claire Hédon, finalement, ce qu'il faudrait, c'est que les personnes les plus pauvres en France accèdent au logement social. On voit bien qu'il y a sur d'autres plans un bras de fer entre le gouvernement et le secteur HLM. Est-ce qu'il y aurait une possibilité pour le gouvernement d'inciter le secteur HLM, je le dis avec un euphémisme, accueillir les plus pauvres?
Nous, sur cette question, par exemple, là, de ce que je vous ai dit, fixer le montant du loyer en fonction des revenus de la personne, là, on dit qu'il faut qu'on travaille avec les sociétés de HLM. On a commencé avec certains, mais si on n'arrive pas à les convaincre...
Travailler, c'est un mot poli, mais ça veut dire quoi, en fait?
Mais si on n'arrive pas à les convaincre, on n'y arrivera pas. Alors ça, on est convaincus. En termes de lutte contre la pauvreté,
rappeler Claire Hédon,
faire les choses contre les personnes.
Nos auditeurs ne savent peut-être pas comment fonctionnent ces sociétés HLM. C'est un mode de fonctionnement un peu particulier. Ce sont des sociétés qui ont beaucoup de trésorerie. Peut-être une présentation serait utile.
Pas toutes, certaines. Mais nous, on pense qu'il faut travailler avec eux. Il faut commencer à réussir par les convaincre. Et si on les convainc, on pourra avancer. On ne fera pas ça contre eux. Enfin, ça, moi, je n'y crois pas du tout. Mais même en général, sur les questions de lutte contre la pauvreté. Vous parliez logement. Je voudrais vous faire une comparaison internationale sur ces questions de logement. Aux Philippines, on est avec des familles en situation de grande précarité, deux groupes de familles, un qui vit dans un cimetière et les autres sous un pont. La mairie de Manille, à un moment d'un typhon, choisit de reloger ces personnes, mais à 50 km du centre de Manille, sans moyens de transport, sans travail sur place. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas demandé l'avis aux personnes, c'est pas faisable, elles retournent sur le pont. La Nouvelle-Orléans, suite au cyclone de Katrina, qu'est-ce qui s'est passé? Plus aucune personne en situation de pauvreté, il n'y a plus de logements sociaux à l'intérieur de la Nouvelle-Orléans. Quel que soit le pays, on voit bien qu'il y a une volonté plus ou moins consciente d'exclure les personnes les plus pauvres. Et ça, il y a un vrai danger là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est quel que soit le pays, du sud ou du nord.
Un mot sur le portrait du logement social et un mot sur la nouvelle stratégie qui est mise en avant, qui est baptisée Logement d'abord. Sur le logement social, en gros, vous avez deux grandes familles, il y en a plus. Une famille de sociétés anonymes de HLM, une détenue par AXA, l'autre qui est dans la galaxie d'Emmaüs, donc des sociétés anonymes HLM qui ne sont pas là seulement pour faire du profit, qui sont là pour loger les personnes modestes. Et une autre famille, ce sont les offices, ce sont des établissements publics pour les collectivités locales. Vous avez en gros, pour un chiffre, un peu plus de 4 millions de logements sociaux en France, ça représente un peu moins de 1 logement sur 5 en France, avec beaucoup d'efforts qui ont été faits pour toujours construire davantage. Et un gros problème qui est qu'il faut construire davantage là où il y a des zones tendues, là où on en a besoin. Le gros sujet du logement social, c'est qu'il a été développé pour les classes moyennes salariées, normées autour du SMIC, si vous voulez. Aujourd'hui, son dossier est de savoir s'il peut être normé autour des minima sociaux. Et ça, c'est la logique maintenant de la stratégie que le gouvernement veut mettre en place, qu'il baptise Logement d'abord, qui est une traduction d'ailleurs de ce qui se passe ailleurs sous le nom Housing First. Quelle est l'idée que Claire a évoquée tout à l'heure? C'est plutôt que de passer de case d'hébergement en hébergement, les gens accèdent directement à un logement. Pour cela, pour faire une stratégie Logement d'abord, les associations ont dit « Ah, elles sont intelligentes, elles sont malines », elles ont dit « On est d'accord, mais ce qu'il faut, c'est d'abord du logement ». En réalité, la grande question qui pèse sur le mouvement HLM, c'est le logement social, il est d'abord pour qui? Est-ce qu'il est pour les classes moyennes salariées? Qu'il a été, depuis les années d'après-guerre, développé, il a été développé à cet effet, ou est-ce qu'il doit aujourd'hui se fixer l'objectif de zéro personne à la rue?
Avec peut-être aussi des intérêts divergents, parce que vous êtes diplomate, Claire Hédon, vous devez négocier avec ces sociétés HLM, mais disons que les intérêts de ces sociétés HLM ne sont pas nécessairement les intérêts des personnes les plus pauvres qui pourraient être logées dans ces ensembles.
Mais il va falloir que les intérêts convergent, et puis alors, il faut aussi la mixité sociale.
Ça dépendra de votre votre habileté à négocier.
Mais je pense franchement qu'on n'arrivera pas en termes de lutte contre la pauvreté si on n'arrive pas à convaincre. Je pense qu'on ne fera pas contre les personnes, et ça c'est un point absolument...
Vous avez été particulièrement clair là-dessus.
Donc, oui, il va falloir les convaincre.
Mais est-ce que vous allez convaincre les offices HLM sans volonté politique, c'est-à-dire sans que le gouvernement leur torde le bras?
Oui, il va falloir que tout le monde s'y mette. Et le point de la mixité sociale est absolument essentiel, parce qu'on parlait tout à l'heure éducation, et justement l'éducation elle ne réussira que s'il y a de la mixité sociale et s'il n'y a pas des ghettos de personnes en situation de précarité.
Julien Damon.
Sur le mouvement HLM, il faut voir que vous avez 800 organismes différents. Certains ont des contraintes financières absolues, sont en gigantesques difficultés. D'autres ont quelques réserves. Leur tordre le bras, le gouvernement est en train de leur tordre le bras.
Ils ne sont pas contents, ils se rebiffent.
Oui, mais pas sur les questions que vous évoquiez, nécessairement. Le gouvernement leur a tordu le bras sur la question des APL. Ensuite, si l'idée consiste à dire qu'on va... je ne sais pas, réserver un contingent de logements pour des personnes qui sont hors barème par le bas, bien entendu. Alors là, il faudra s'attaquer à l'autre bras, puisque les HLM en ont au moins deux, des bras, par exemple. D'autres commentaires sur cette concertation en guise de conclusion, Claire Hédon, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement concrètement? La concertation, elle a débuté le 17 octobre. Là, aujourd'hui, il y a une réflexion qui est entamée. Qu'est-ce que l'on peut donner comme calendrier avec des objectifs clairs?
A priori, c'est l'élaboration d'une stratégie dans 6 mois. Nous, on trouve plutôt intéressant de parler de stratégie, pas de nouvelle loi. Il y a une loi de 98 de lutte contre les exclusions qui est très bien. Il faudrait juste qu'elle soit appliquée. Donc, appliquons la loi, appliquons le droit. Je vous parlais du non-recours. Donc, ça, c'est une première chose qu'on demande. La participation des personnes essentielles. On demande, entre autres, au président Macron de recevoir des militants Carmont, des personnes en situation de précarité, pendant une heure, qui ont des choses à dire là-dessus. Après, le dernier point, ce sont quand même des moyens financiers. Et la dernière question, c'est aussi les minima sociaux. Je vous l'ai dit, on vit très mal avec le RSA. On a une inquiétude sur ce qui a été annoncé, une augmentation de certains minima sociaux, minimum vieillesse, allocation adulte handicapé, prime d'activité, rien sur le RSA SOC. Qu'est-ce qu'on renvoie comme image? Le handicap, c'est pas de votre faute, la vieillesse, c'est pas de votre faute. La prime d'activité, c'est quand même bien, vous travaillez. Et le RSA SOC, qu'est-ce qu'on renvoie dans l'image collective du « vous faites pas grand-chose pour vous en sortir » Voilà, ça nous inquiète un peu.
Julien Damon, Un monde de bidonville, aux éditions du Seuil. Claire Hédon, le livre En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, édité par ATD Carmont.